êtes jeune? Vous êtes curieux? Nous avons de l'énergie à partager ensemble tous les jours sur Radio Okapi. De 15 à 17 heures, c'est Total Énergie. 2 heures de musique, Actu People, emploi, environnement. Nous ouvrons le dictionnaire dans J'aimerais savoir. Nous vous donnons aussi la parole dans Regard d'avenir, point de vue et portrait de jeunes. Chaque jour, jouez avec une question de connaissance générale. Pour mettre le feu de 15h à 17h sur Radio Okapi, Total Énergie, c'est l'énergie totale.
De plus en plus de forêts du monde disparaissent. Ces déboisements, c'est fait par de grands exploitants du bois, soit encore par des paysans, d'après les experts. La coupe abusive des arbres entraîne plusieurs conséquences, notamment les perturbations climatiques, les érosions, ainsi que le terrassement du cours d'eau. C'est le sujet que nous abordons avec notre invité, qui est expert en environnement, Nicolas Choukonema. Bonjour.
Bonjour.
Alors, qu'est-ce qu'on attend par coupe abusive des arbres?
Ok, quand on parle de coupe abusive des arbres, c'est en fait l'abattage incontrôlé des arbres. C'est quand on va couper les arbres sans tenir compte des normes environnementales. Et là, on est tenté de couper les arbres même à ras du sol.
L'abattage est contrôlé par tout le monde, des paysans, des exploitants, par tout le monde.
Ben, le contrôle, même... un paysan comme un exploitant peut abattre d'une façon incontrôlée. Quand il abat un grand arbre, le gros arbre tombe sur le petit arbre et il dérange, il perturbe juste l'équilibre écosystémique de cette forêt-là.
Voilà, évidemment, vous abordez cela d'ailleurs, dans cela, des conséquences sur le plan de la société, de l'environnement, de l'hydrographie, même de l'habitat. Mmh. Et quelles sont ces conséquences?
Alors, pour parler des conséquences de l'abattage des arbres, il est vraiment important de savoir pourquoi les gens coupent les arbres. Et comme vous aurez à le remarquer, il y a plusieurs facteurs qui poussent les gens et les hommes à couper les arbres. C'est pour les besoins de la nourriture, ils font l'agriculture sur brûlis. Et avec jachère, aujourd'hui, dans nos pays, la jachère devient non prolongée. Et les arbres sont coupés et à cause de la pauvreté. Une personne qui n'a pas de travail, il ne peut qu'aller dans la forêt chercher comment se nourrir. Et surtout la surpopulation, la population du monde ou même de la République démocratique du Congo ne cesse de croître. Et comme la population croît, il n'y a pas de travail et les gens ne peuvent aller que vers la forêt pour aller chercher à se nourrir, à couper. Mais aujourd'hui, on a lancé, où vous remarquez, l'exploitation illicite, l'exploitation minière. Quand on est dans l'exploitation minière, c'est dans la forêt. C'est dans les arbres qu'on est en train de couper, c'est les écosystèmes, c'est les espèces végétales qui sont détruites. Même les troupeaux, quand on est en train de nourrir les animaux, et le fait d'accroître les animaux qui croissent, c'est là où ils vont brouter. C'est l'une des causes aussi de déstabilisation de la forêt. Il y en a plusieurs conséquences, mais parmi les conséquences, et nous pouvons parler du point de vue environnemental. Dès que les arbres sont coupés, il est normal de savoir qu'il y a évidemment la disparition des espèces. Il s'agit ici des espèces animales comme les espèces végétales. Et le fait de couper les arbres et puis la forêt, quand on est en train de le brûler, la fumée monte au niveau de l'atmosphère et ça engendre ce qu'on appelle le réchauffement climatique. Comme vous aurez à le savoir, dans un milieu forestier comme la forêt équatoriale, quand vous coupez beaucoup de la forêt, vous coupez les arbres, la conséquence des coupes d'arbres, c'est quoi? C'est la savanisation. Mais dans les milieux où il y a la savane, vous allez vers la désertification. Et il n'est que normal que dès qu'il y a la savanisation, on trouve beaucoup de...
La savanisation, c'est-à-dire qu'il y a des savanes qui se développent à l'endroit où on coupe des arbres?
Oui, parce que du moment où on est en train de couper les arbres, et qui est accompagné avec le feu de brousse ou le feu qu'on est en train d'émettre. Et qu'est-ce qui se passe? On ne donne pas à l'arbre le pouvoir de se régénérer parce que l'arbre lui-même, c'est une ressource naturelle qui se développe à l'échelle humaine. Mais si chaque fois qu'il est, l'arbre est coupé, le feu intervient, c'est qu'on ne donne pas à l'arbre ou à la végétation le pouvoir de se régénérer. Là où il y avait les arbres, on trouve la savane. Et là où il y a la savane, on y va vers la désertification.
Et par rapport à cette savanisation, est-ce qu'au niveau de la RDC, il y a des sites qui sont déjà menacés? Vous connaissez certains sites qui tendent à devenir savane alors que c'était des forêts avant?
Vous allez au Bas-Congo, là où il y a la mangrove.
Oui.
Aujourd'hui, la mangrove est coupée pour des besoins énergétiques. Et aujourd'hui, cette mangrove, comme il n'est pas arrivoisé, et la conséquence, c'est quoi? Il faut savoir que vous êtes sur la côte de l'océan.
Oui.
Il y a un mouvement naturel qui se passe. Pour qu'il y ait précipitation, il faut qu'il y ait évaporation. Mais à cet endroit-là, il n'y a pas évaporation. Il y a ce qu'on appelle la subsidence de la masse d'air. Et comme la masse d'air est en train d'aller vers le bas, et puis avec le bois qui sont coupés, cet endroit-là est en train d'être savanisé.
Vous avez parlé de mangrove qui est près de l'embouchure
du fleuve Congo. Là.
Et la coupe des arbres a également des conséquences sur l'hydrographie, c'est bien cela.
La coupe des arbres a aussi plusieurs conséquences sur l'hydrographie,
oui.
Parce qu'il y a certains endroits où il y avait les arbres, et quand vous coupez les arbres, il y a les cours d'eau qui sont en train d'être desséchés aujourd'hui. Il y a certains, je me souviens, vers le Kwilu, il y a une rivière qui était là aujourd'hui, qui n'existe presque pas. Pourquoi ça n'existe pas? C'est l'endroit où les gens ont beaucoup coupé la forêt et ils ont fait le feu de brousse et il n'y a plus le cours d'eau a disparu.
Alors comment éviter toutes ces conséquences, notamment pour le cas des paysans? Vous l'avez évoqué vous-même, il y a des paysans qui coupent le bois pour survivre. Comment doivent-ils le faire pour respecter les normes de manière à ce qu'il n'y ait pas toutes ces conséquences?
Alors, il faut quand un paysan qui coupe les bois pour les besoins énergétiques, et la solution c'est quoi? Il faut lui amener de l'énergie. Comme vous allez le remarquer, nous sommes dans un pays, nous avons l'hydroélectricité, nous avons les barrages d'Inga,
oui.
Mais le taux d'électrification de notre pays, il est de 6%. Il est le taux le plus faible que puisse exister. Que vous allez, malgré les grands barrages que nous avons entre guillemets, et qu'est-ce que vous allez remarquer pour un paysan? Il n'est pas qu'à aller et vers la forêt, parce qu'il doit cuisiner avec son bois de chauffage ou de charbon de bois.
Mais pour sauver ça, il faut
une certaine conscience,
oui.
Il faut une éducation, il faut une certaine informer la population. Mais en fait, il faut amener d'autres sources d'énergie, qu'on appelle les énergies alternatives, les énergies nouvelles et renouvelables. Comme vous l'aurez à les remarquer, nous avons notre pays, on a toujours dit, est un pays béni. Vous trouvez les rayons solaires, avec les rayons solaires, quand vous utilisez les panneaux solaires, accouplés, vous pouvez donner l'électricité à la population, vous pouvez donner la population peut utiliser les réchauds avec ça, mais même pas ça, on peut amener d'autres formes d'énergie. Il y a longtemps, je me souviens, et la Commission nationale de l'énergie a mis sur pied les hydroliennes en Guinée du Brasserie, mais en Colé, il y en a encore les hydroliennes, mais ce sont des formes d'énergie qu'on peut les amener. Il faut éduquer et il faut aussi amener. Mais aujourd'hui, la population de Kinshasa, presque 90% de la République démocratique du Congo comme population, utilise les bois énergie, charbon de bois, comme bois de chauffage dans leur ménage. Mais on peut changer cette mentalité. Aujourd'hui, il y a une autre forme d'énergie renouvelable qu'on appelle le granil. Le granil, c'est un produit combustible qui provenait des granulateurs utilisant les déchets organiques.
Les granules qui proviennent du granulateur. Expliquez un peu très bien tout cela. Le granulateur, c'est
Le granulateur est une machine.
C'est une machine, oui.
Est une machine qui consiste à broyer les déchets, qui consiste à les transformer.
Une machine qu'on peut trouver facilement.
Qu'on peut les trouver facilement.
À Kinshasa, par exemple, on peut trouver.
À Kinshasa, il n'y a pas un granulateur. Mais il y a la technologie des granulateurs. Vous les retrouvez en France.
Nous n'avons pas encore cette technologie.
Vous les retrouvez au Canada. Il n'y a pas la technologie. Il faut l'acheter. La machine coûte à peine 50 000 dollars. $50,000 par rapport aux déchets qui peut engendrer la maladie, par rapport à la saleté qui entraîne la perte de vie. vies humaines. Qu'est-ce que vous voyez là, quand vous voyez la balance entre une personne et une machine achetée à $50,000 qu'on peut assainir la ville et avoir les combustibles qui remplaceraient les bois de chauffage.
Là, vous parlez des solutions palliatives, mais qui, on se rend compte, que ne sont pas vraiment à la portée des paysans. Bon, prenons le cas on laisse entendre que le reboisement peut être aussi une solution. Est-ce qu'on peut parler du reboisement comme solution?
On peut parler du reboisement comme solution.
C'est une solution.
Le reboisement est l'une des grandes solutions pour ne pas détruire la forêt. Il est en fait dans la mentalité qu'on puisse instruire, quand, comme vous le savez, dans la politique pollueur-payeur. Quand vous coupez un arbre, il est important de planter un autre arbre. Si les paysans, dans leurs milliers ou dans leurs milliers écologiques, leurs milliers de vies, s'ils coupent les arbres, il est important de les remplacer. Parce que quand vous les remplacez, vous allez faire l'équilibre éco-climatique.
Voilà, coupe abusive des arbres, quelles sont les conséquences? Nous en parlons avec Nicolas Choukou. On est Maïlé, expert en environnement. Vous êtes intéressé par le sujet, vous avez des réactions, des préoccupations. N'attendez pas, appelez-nous déjà au 081-890-6394 ou envoyez-nous un SMS au 081-711-5001. Vous avez également la possibilité de réagir sur la page Facebook Okapi Service. Okapi.
Réponse à vos réactions, questions et suggestions avec l'invité d'Okapi Service.
Coupe abusive des arbres, quelles sont les conséquences? On en parle avec Nicolas Chungonemba, expert en environnement. Et là, c'est l'occasion de parler de l'importance des arbres. Parce que quand vous dites que c'est le constat qui est d'ailleurs fait, il y a cette coupe abusive des arbres, alors que l'arbre est important pour la société, pour la vie. Est-ce que vous pouvez bien rappeler l'importance des arbres?
Oui, l'arbre est tout à fait important. Parce que lui-même, l'arbre, il protège les milieux, il protège la faune, il protège la flore. Et l'arbre est source des produits énergétiques. Avec l'arbre, on a de l'énergie. Dans la forêt lui-même, ça vous aide à avoir les bois pour le bois d'œuvre, le bois de construction. Sur le plan de la santé, avec les arbres, vous avez les produits médicinaux, tels que les problèmes de la pharmacopée aujourd'hui. Mais l'arbre avec la forêt, avec les feuilles, ça renvoie à l'atmosphère, ce qu'on appelle l'évapotranspiration. Et avec l'évapotranspiration, vous avez la précipitation. La pluie est toujours importante pour la culture. La pluie est importante pour plusieurs faits. Donc l'arbre, en fait, est tout à fait important. Ça maintient les sols, l'arbre. Et les arbres ou la forêt favorisent les microclimats.
Voilà, si on doit parler du cas de Kinshasa, cela a été déploré par plusieurs ONG de la protection de l'environnement, c'est par rapport à tous ces arbres qui sont abattus dans la ville et dans la périphérie de la ville. Est-ce qu'il y a des conséquences par rapport à ça?
Bon, en principe, quand on est en train de... Les arbres de la ville de Kinshasa sont coupés sur un programme, ce que je comprends.
Oui.
Mais en principe, avant de faire... c'était le programme par rapport à l'agrandissement de la route.
Oui.
Ce qui est important, ça aurait été de faire les études de faisabilité, et on pourrait aussi faire les études qu'on appelle les évaluations environnementales stratégiques.
Oui.
Mais il s'est fait qu'on a commencé à couper sans les études. Je ne sais pas si les études ont suivi, mais ce qui est vrai, mais quand les arbres existaient, mais ces arbres-là servaient bien pour l'ombrage. Et ces arbres-là étaient très importants parce que vous pouvez même trouver certains êtres vivants, tels que les oiseaux, qu'on ne peut plus le voir, mais c'est très important qu'on ne les voit plus. Mais en fait, les arbres-là, c'était très important. Même quand les gens, il pleuvait, ils pouvaient se cacher tout au long des arbres. C'était par rapport au programme. Mais aujourd'hui, qu'on les a coupés, mais est-ce que ces arbres qu'on a coupés, qu'est-ce qu'on a fait avec ces arbres? Est-ce qu'on les a vendus pour les remettre pour les besoins de la population? Est-ce qu'on va ces arbres coupés coupés, est-ce qu'on va encore les replanter? Il faut aussi les remettre, les replanter ou replanter après avoir construit ou agrandi la route. Il est important de repiquer les arbres, parce que les arbres sont très importants sur le plan climatique, sur le plan de l'équilibre écologique, sur le plan de la protection de l'homme lui-même, de la ville de Kinshasa. Parce que si les arbres là ne sont pas replantés, imaginez-vous quand le sol est nu et qu'il arrive à pleuvoir dans un endroit où l'espace est du sol est nu, ça signifie que vous sujettez l'endroit à une certaine lessivage. Donc pour éviter le lessivage, il est important de replanter.
Voilà, nous avons un auditeur en ligne, c'est Thierry depuis Lubumbashi dans le Katanga. Thierry, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste.
Bonjour, on vous écoute, Thierry.
Oui, je suis très ravi d'être parmi ceux qui vont intervenir dans cette émission. Et ma question, la première est celle-ci. Est-ce que la RDC bénéficie d'abord de la taxe carbone? Parce que nous sommes, je crois, le deuxième grand réseau forestier du monde. Et puis, existe-t-il une loi qui protège la flore congolaise contre la coupe illicite, permettez-moi le terme, des arbres. Mais aussi, j'aimerais savoir si... Et puis, dit-on, l'histoire nous enseigne que le désert Sahara était vert, mais avec les temps, il est devenu désert. Et j'ai eu la chance de les arrêter, de parcourir presque toutes les provinces de l'Est, de l'RDC, et je trouve que le Katanga est celui qui est le plus menacé. Vous trouverez qu'il n'y a presque pas d'arbres dans certaines régions. C'est ainsi que je voudrais savoir si c'est à cause de la coupe d'arbres illégale ou illicite ou intensive, parce que ici d'abord on coupe les arbres de pousse.
Merci Thierry, on vous a compris, l'invité va vous répondre tout à l'heure. Francisco Manzanza nous appelle de Kikwi dans le Bandundu. Francisco, bonjour.
Oui, bonjour. Moi j'ai deux préoccupations aussi. La première était autour du granulé dont a parlé l'invité. S'il fait un peu à développer ce dossier intéressant, à quoi il peut être une solution, bien qu'il coûte cher dans les milieux rurales, c'est difficile. La deuxième préoccupation, c'est de savoir dans le plan de polier feuilleur, comment est-ce que les villageois ici dans le milieu rural peuvent-ils profiter de ces projets-là s'ils doivent finalement cesser à reboiser des étendues qui sont devenues presque comme des vertiques ici chez nous, dans les Bandundu.
Merci Francisco. Jean-Pierre Kainga, il est à Kananga, dans le Kassa occidental. Jean-Pierre, bonjour.
Bonjour.
On vous écoute, Jean-Pierre.
Oui, je suis à Kananga, mais je me demande ce qui va réellement se passer dans 5 ans, 4 ans. À Kananga, totalement, nous sommes en train d'utiliser la braise. Alors, oui. Je suis en train de demander qu'est-ce qu'on peut réellement utiliser comme énergie, puisqu'ici, la forêt, nous sommes en train de vivre dans la savane. Alors, réellement, est-ce qu'en utilisant seulement la braise, on peut pas avoir d'autres conséquences?
Merci, Jean-Pierre. Nicolas Choukou.
Merci pour ces questions très, très importantes. Et la personne qui se trouve à Lubumbashi parle si la RDC bénéficie
de
la taxe carbone. Dans le cadre du mécanisme de développement propre, il appartient au pays à faire les projets. Mais jusqu'aujourd'hui, à notre connaissance, la République démocratique du Congo n'a pas encore fait un projet dans ce sens-là pour bénéficier de la péréquation internationale sur la taxe carbone. Il appartient aux Congolais. Il appartient aux experts congolais, il appartient au ministère de l'Environnement de la République démocratique du Congo, il appartient au ministère provincial des environnements, il appartient aux cadres, aux chercheurs, de faire des projets à remettre dans le cadre des mécanismes de développement propre pour faire des projets et bénéficier. On ne peut pas bénéficier une taxe internationale si le pays n'a pas fait un projet. Alors, il faut aussi que les projets soient bancables, et c'est-à-dire que les projets doivent obéir aux normes internationales pour que ça soit bénéficié. Et ces taxes, on les connaît, et qu'il faut... Il faut faire un bon projet, on va bénéficier. Par rapport à de l'autre...
L'autre m'a dit, pour l'instant, la RDC ne bénéficie pas de ces taxes.
Parce que la RDC n'a pas encore fait un projet.
Voilà. Alors, j'ai également demandé s'il y a une loi en RDC qui protège...
Vous savez que l'un des pays qui a beaucoup de lois, les lois importantes, c'est la République démocratique du Congo. Nous sillonnons à travers le monde, mais la République démocratique, il y a beaucoup de textes, il y a beaucoup de lois. Il ne se pose pas les problèmes de lois en République démocratique du Congo, il se pose les problèmes de l'applicabilité
donc,
de
ces lois. Donc, il y a bel et bien une loi qui protège
la forêt. Nous avons le code forestier. Ouais. Aujourd'hui, il y a la loi que le président de la République a signé, c'est la loi de l'environnement. Mais la loi 4 sur l'environnement, c'est l'applicabilité de la loi qu'il faut se poser dans notre pays. Et il a parlé du désert de Sahara. Le désert de Sahara là, était un désert où il y avait la végétation. Et à cause d'utilisation abusive, comme on utilise ici, laisse-moi vous dire que le désert de Sahara est en train d'avancer vers le sud. Et le désert de Kalahari est en train d'aller vers le nord. Il y a aussi à l'ouest le désert de Namib qui évolue. Ça signifie un jour nous allons nous retrouver dans un milieu désertique. Parce qu'il y a maintenant, nous allons de la forêt vers la savane et de la savane vers le phénomène de la désertification. Mais nous sommes en train de regarder parce qu'aujourd'hui nous disons que le Congo...
Est-ce que j'espère que vous tirez la sonnette d'alarme par rapport à ce qui paraît être comme une grande menace?
Pendant que je suis en train de parler, je suppose que c'est une sonnette d'alarme.
Non, mais en dehors est-ce que vous avez des rencontres
nous
avec...
Nous avons des conférences internationales que nous réalisons. Même en République démocratique du Congo, nous avons parlé il y a 3 semaines, à la francophonie, quoi, nous avons parlé des enjeux environnementaux, de l'utilisation de l'énergie bois en Afrique. Et les séminaires s'est passé en République démocratique du Congo. Mais il appartient aux Congolais de tirer des conclusions positives. Il appartient aux autorités de mettre en pratique. Sinon, à un moment donné, il n'y aura pas de ville. Quand vous arrivez dans la ville de Kikwit, où la ville de Kikwit est construite sur les interfluves, avec des ravins partout, et la ville est en train de s'effacer. Mais sur la carte, la ville de Kananga aujourd'hui, ça va s'effacer sur la carte. Lubumbashi, on vous en parle, que c'est le charbon de bois, tout ça. Il faut maintenant qu'on arrive à mettre des mesures pour freiner cela, des mesures appropriées. Prendre les experts, prendre les gens qui connaissent la matière, pas prendre n'importe qui pour faire des projets de restitution et arriver à mettre sur pied dans notre pays. Par rapport celui qui est, je pense, à Kananga, a parlé de deux questions sur le granulé.
C'est Francisco qui voulait savoir les granulés, cet appareil.
La machine s'appelle le granulateur.
Le granulateur.
Le granulateur est l'une des solutions importantes ça va aider la population, au lieu d'utiliser le charbon de bois ou les bois de chauffage, ça vous donne les combustibles pour la cuisine, et ça ne pollue pas et ça coûte moins cher. Ce n'est que l'investissement. Le pays peut acheter les granulateurs. Les investisseurs peuvent acheter des granulateurs. Certaines personnes peuvent acheter des granulateurs et ça diminuerait la corvée des dames. Ça diminuerait certaines maladies et ça va assainir certaines villes. Aujourd'hui, nous savons que nos villes sont tout à fait, pour ne pas dire, propres. Vous connaissez l'état de la ville, mais on peut prendre ces déchets, les mettre dans les granulateurs, ça nous donne des combustibles, et dans l'attente, nous avons de l'énergie, et nous avons assaini la ville.
Et Jean-Pierre qui est à Kananga qui dit bon voilà lui c'est ce constat malheureux qu'il fait hein. La population utilise le bois pour avoir de la braise pour préparer il n'y a pas d'autre solution
voilà. Bon, j'avais déjà dit ce n'est pas seulement au Kananga, c'est toute la République démocratique du Congo où on utilise pas de la braise, il faut parler des combustibles lignés, l'énergie bois, le charbon de bois et le bois de chauffage. C'est partout qu'on utilise, dans toutes les villes. Mais il se fait qu'au Kananga, on utilise plus de charbon de bois, à Lubumbashi, on utilise des charbons de bois. Même dans la ville de Kinshasa, à Kindu, vous allez à Kisangani, mais les conséquences, c'est quoi? C'est les arbres qui sont en train d'être coupés, et puisque les arbres sont en train d'être coupé, on fait la carbonisation avec des mêles traditionnels. Et ces mêles traditionnels utilisent plusieurs bois et pour un faible rendement. Et ça signifie qu'il y a une grande pression sur la forêt. Ce n'est que normal que les phénomènes de dégradation de la forêt, les phénomènes, les conséquences négatives arrivent. Et la solution, il y a plusieurs solutions, j'étais en train de le dire, dans la République démocratique du Congo, on peut utiliser plusieurs formes d'énergie que j'appelais les énergies alternatives. À Kananga ou à Lubumbashi ou partout, on peut utiliser les énergies nouvelles et renouvelables.
Est-ce qu'en Afrique, il y a des pays où toutes ces solutions alternatives ont marché? Vous en connaissez quelques-uns?
À Ouagadougou, au Burkina Faso, c'est l'un des pays de l'Afrique où aujourd'hui, c'est peut-être pas certains pays sahéliens. J'étais à Ouagadougou, j'étais à Bamako, et ces énergies renouvelables sont mises en application. C'est la loi utilisée et on demande à la population de les mettre en pratique, le gouvernement met en pratique. Le gouvernement achète des énergies nouvelles et renouvelables pour le profit de la population. Mais vous allez en Afrique du Nord, ça existe. Même au Cameroun, ils sont en train de réaliser. Je vous informe, quand on a parlé des projets de granulateurs à la marge de la francophonie, et aujourd'hui, la Brazzaville est en train de chercher comment importer du Canada les granulateurs à mettre au nord de Brazzaville. Pourquoi on ne peut pas le faire en République démocratique du Congo?
Voilà, un auditeur en ligne, c'est Amakou depuis Ondolé, à 15 km de Haro, dans la province orientale. Amakou, bonjour.
Bonjour.
Vous avez la parole, Amakou.
Oui, je voulais poser une question à l'invité. Ma question est la suivante. Pour un paysan qui abat un arbre, combien faut-il reboiser ces paysans pour pallier à la savanisation?
Voilà, merci Amakou. Nicolas Choukou.
Alors, en fait, j'ai parlé de la politique pollueur-payeur. Il est important de savoir, chaque fois que vous coupez, vous abattez un arbre, il est important de reboiser un autre arbre pour un certain équilibre. Un paysan qui a coupé 10 arbres, il est important pour lui de repiquer 10 arbres pour un certain équilibre. Si 6 000 habitants ont coupé 1 000 arbres, c'est 1 000 arbres replantés. Si vous regardez par rapport à la dimension de la République démocratique du Congo, ça va faire un écho. Ça commence à repousser et ça va être conscientisé la population. Si la population ne fait pas, ils vont seulement commencer à pleurer et puis ils vont mettre les sols nus, il y aura les ravinements, des autres endroits il y aura les éboulements, ils vont se déplacer, ils finiront par se déplacer et finalement ils iront où? Il faut prendre conscience et commencer à agir. Il faut commencer par quelque chose.
Kasi Kasereka nous appelle de Boutembo dans le Nord Kivu. Kasi, bonjour.
Oui, bonjour.
On vous écoute, Kasi.
Bonjour, bonjour à l'invité aussi.
Bonjour.
Oui, j'aimerais demander ceci. Parmi les espèces courantes de reboisement que nous vivons ici, il y a ces espèces-là, ont-ils les mêmes qualités que les espèces traditionnelles? Notamment, je peux citer ici les espèces traditionnelles que nous vivons ici. Il y a les linzo et les autres, les liboyos là. En matière aussi d'herboisement, quelle filière politique s'en occupe concrètement? Parce qu'il y a ici la surtaxation de ceux qui herboisent dans nos populations.
Merci.
Comment envisager les méthodes efficaces et faciles pour les populations rurales?
Merci. Merci Kasi Sereka, vous appeliez de Boutembo dans le Nord Kivu. Nicolas Choukou.
Okay, il est important de savoir, pour le reboisement est très important, mais il est vrai que les espèces qu'on importe ne peuvent pas se développer plus que les espèces qu'on trouve in situ, sur place. Par exemple, les linzos qu'on trouve à Boutembo, il est important de reboiser les mêmes espèces qui sont habituées dans ces milieux. Et ça va mieux se développer. Mais aujourd'hui, on est en train de nous amener les reboisements par eucalyptus. Et c'est très bien. C'est un arbre à croissance rapide. Mais ça a beaucoup de conséquences. C'est une seule espèce. Au lieu de diversifier les espèces, cette espèce ayant des racines denses, ça va pomper encore de l'eau parce qu'il croit, il se développe là où, en utilisant beaucoup d'eau et ça va encore assécher et les milliers. Mais par rapport au reboisement, à la surfacturation, bon, les Congolais, des fois, nous ne sommes pas naïfs. Mais le Congolais doit connaître la loi. Dans la structure des prix, on sait qu'est-ce qu'il faut facturer. Mais quand vous voyez que vous êtes deux fois facturé pour un même produit ou quatre fois facturé, mais il faut sonner le coup d'alarme. Il faut utiliser les agents de l'ordre pour dire ça va pas. Mais si c'est un agent de l'ordre qui vous facture deux fois, il faut aller dans une instance, dans des sens supérieurs, parce qu'il n'est pas normal que vous facturez trois ou quatre fois un seul produit. Mais vous laissez faire. Et quand on vous facture deux, trois, quatre fois, ou il faut refuser, il faut réclamer, il faut dire que il faut ne pas payer. La surfacturation, c'est un détournement des fonds des paysans. Mais comment est-ce qu'un paysan peut faire un reboisement rapide et facile? Mais un paysan, pour faire un reboisement facile, il doit seulement se prendre en charge. Il est dans son milieu parce qu'on sait qu'aujourd'hui, les paysans ont leur forêt. Quand ils coupent l'étendue de son lopin de terre, chaque fois qu'il est en train de couper, qu'il prenne conscience de repiquer, de replanter, pour qu'il ne se retrouve pas un jour sans forêt. Parce qu'aujourd'hui, nous, personne n'ignore, quand on fait l'agriculture, le temps de jachère est réduit dans notre pays.
Voilà, Samson Découlé, Taboutembo dans le Nord Kivu, Jean Renaud à Kananga dans le Kassa occidental. Samson, bonjour.
Oui, bonjour.
Vous avez la parole, Samson.
Donc, je voudrais poser la question à notre invité. Et ici, si nous assistons vraiment à l'abattage des arbres, mais sans aucune stratégie, donc, de reboiser. Bon, d'après ce qu'il est en train d'expliquer, je trouve qu'ils ont quand même des bonnes stratégies. Maintenant, comment les mettre en pratique? Parce qu'ici, c'est toujours l'abattage des arbres qui se font, mais aucune stratégie, donc, de reboisement dans notre.
Merci Samson. Nicolas Choukou va vous répondre tout à l'heure. Jean Renaud, vous êtes à Kananga, dans les Kassai occidentales. Bonjour.
Bonjour Radio Capi. J'aimerais moi savoir, j'ai suivi l'invité de ce jour parler, qu'il y a des lois qui ne sont pas mises en pratique en République démocratique du Congo. Quel est maintenant le mécanisme pouvant permettre les personnes à appliquer la loi qui est parfois considérée comme si tombée en désuétude? Il n'est pas applicable en République démocratique du Congo tout en respectant le déboisement des arbres en République démocratique du Congo avec la situation qui est la nôtre.
Merci Jean Renaud. Nicolas Choukou.
Merci.
Ok. L'abattage des arbres, parce qu'il parle à Kananga, les arbres sont réellement abattus, mais partout il y a abattage des arbres dans ces pays, parce que et quand ils abattent, les arbres sont abattus, c'est parce que et comme vous aurez à les remarquer pour certaines raisons. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Je suis en train de le dire, chaque fois qu'il faut abattre un arbre, il faut couper l'arbre, il faut les repiquer. Il faut que cela entre dans la mentalité. Vous coupez un arbre, vous replantez, vous achetez une maison. Ça signifie que vous avez coupé les espèces où il y a la végétation. Dans votre parcelle, vous pouvez planter les arbres. Là, vous êtes en train de mettre certains équilibres. Vous êtes en train d'aider même votre propre vie. Vous êtes en train d'aider la nation et vous aider l'humanité. Mais quand vous regardez qui va venir planter dans votre parcelle, qui va venir planter dans votre maison, il faut prendre la conscience. Mais par rapport du fait...
Est-ce que là où on a abattu les arbres, on peut aussi les laisser pousser naturellement au sens?
Oui, quand vous laissez aujourd'hui, quand on laisse on fait les champs, on laisse en jachère. Oui. On met la forêt en repos. Après un certain temps, 10 ans, 15 ans, les arbres...
J'achère, c'est-à-dire on met les sols en repos.
On met les sols en repos. Oui. Et ça va se reconstituer, la forêt va se reconstituer, on trouvera les grands arbres. Mais à cause de la pauvreté, mais la population pauvre entre encore dans la même forêt pour chercher à se nourrir. Mais par rapport à notre ami qui parle de quel mécanisme faut-il faire pour que mettre des lois en place, quand le Parlement émet dite la loi, le chef de l'État promulgue la loi, il appartient au ministère concerné de mettre ce qu'on appelle des textes d'application, des arrêtés d'application. Il y a certaines lois qui n'ont pas de texte d'application, mais cette loi est comme une femme qui a mis au monde un mort-né, un prématuré qui va mourir, parce que cette loi n'a pas de texte d'application. Il faut qu'il y ait des textes d'application, et même si en mettant les textes d'application, il faut qu'en fait les Congolais obéissent à cette loi. Ils commencent à suivre les mesures. Le ministre va faire l'arrêté, le secrétaire général va prendre certaines décisions et on va les mettre en application. Ce n'est pas seulement des lois pour taxer les gens. Il faut qu'il y ait les lois pour reconstituer la capitale forestière.
Voilà, donc il est bon pour les paysans de savoir que cette coupe abusive des arbres a des conséquences immédiates sur leur propre vie. Nous avons également une autre question, parce que là c'est important d'y revenir, c'est comme on ne peut pas accéder pour l'instant. Vous avez cité un bon nombre de solutions alternatives, mais il faut se rendre à l'évidence, pour l'instant ce n'est pas accessible à tout le monde, il n'y a que le reboisement qui peut être fait. Alors vous avez dit c'était important, si vous avez déjà coupé des arbres, comment faut-il pour bien reboiser, parce que c'est important d'y revenir, c'est la solution qui est actuellement à la portée des paysans.
Bon, comment faire pour y reboiser? Il faut d'abord prendre la décision de commencer à reboiser.
Prendre d'abord la décision.
La décision, parce qu'on peut dire quoi. D'abord, vous prenez la décision de reboiser et vous trouvez les lieux il faut reboiser et vous faites le choix des espèces à reboiser et vous mettez de votre pépinière et vous répiquez les petits arbres sur les pépinières à un certain moment. Et dès que les plantules vont prendre presque quelques 5 à 7 centimètres, vous les reprenez pour les repiquer dans les endroits où vous voulez reboiser.
Alors, il y a des gens qui aimeront peut-être entrer en contact avec vous en votre qualité d'expert en environnement pour avoir beaucoup plus de précisions. Est-ce que vous avez de numéro de contact?
Ok, bon, le numéro de contact, je m'appelle, comme vous le dites, Nicolas Chukwu Onemba.
Oui.
Mon numéro de téléphone ici en République démocratique du Congo, c'est le 082 027 26 47.
Donc je répète lentement, votre numéro de contact, c'est le 082 027 26 47.
Ok.
Voilà, un autre contact.
Et si quelqu'un veut me contacter.
Un contact mail par exemple.
Oui, par email, c'est juste mon nom.
Oui.
Nicolas Chukwu, il y a deux S qui se suivent, c'est Nicolas,
oui.
Shiku, @gmail.com.
Voilà, donc nicolaschukwu@gmail.com.
C'est ça.
Voilà. Merci beaucoup Nicolas Chukwu Onemba. Nous rappelons que vous êtes expert en environnement et vous étiez notre invité pour nous parler de la coupe abusive des arbres. Quelles sont les conséquences? Merci, au revoir.
Ok, merci monsieur le journaliste.